Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Flora Moussi.
h 52 précisément sur RMC, c'est parti pour l'Intégral Sport. On est ensemble jusqu'à 20h avant l'after, autour de François Pinet puis Gilbert Bribois. C'est ma grande première et je suis super contente de la faire avec notre membre de la Dream Team RMC, Olivier Giraud. Salut Olivier.
Salut Flora.
Merci de partager ce petit moment un peu spécial avec moi.
Tout va bien. Découvert tout de suite là.
C'est ça.
Non, tout va bien, tout va bien.
Je préférais pas te l'annoncer trop avant, tu vois, pour pas que t'aies plus de pression que moi, mais ça va bien se passer.
T'as pas l'air trop stressé.
Non, ça va. J'espère que t'as bien suivi le week-end de sport parce qu'on a plein de belles choses au programme aujourd'hui. Une heure de foot jusqu'à 19h avec notamment le premier trophée de la saison pour le PSG. Démonstration hier face à Nantes dans le trophée des champions. Neymar et Messi transformés. À 4 jours de la reprise de la Ligue 1, tous les feux sont au vert pour les Parisiens. Et puis à partir de 19h, on parlera Formule 1 et la nouvelle désillusion pour Charles Leclerc et Ferrari. Qu'est-ce qui cloche à la Scuderia? Pendant que Ferrari galère, Verstappen lui s'envole en tête du classement. On est à un mois aussi de la reprise du top 14, où on est le champion en titre Montpellier. Qui de mieux que son manager Philippe Saint-André pour en parler? L'ancien sélectionneur des Bleus sera avec nous tout à l'heure. Voilà pour le programme. C'est parti pour l'Intégral Sport sur RMC. On est le 1er août et déjà un premier trophée pour le PSG Paris qui a impressionné hier à Tel Aviv.
C'est parti pour ce trophée des champions, lancement de la saison 2022. Attention avec le ballon pour Messi, et le but, le but de Léo Messi. La tentative, la frappe enroulée, la but. Ah, il est splendide ce but, la frappe enroulée de Neymar, le coup franc direct, que c'est bon. Marco Verratti, la petite balle piquée, oh c'est splendide pour Sarabia, oh ça va finir au fond avec la talonnade, et le but de Sergio Ramos. Neymar cette fois, ça y est, qui va prendre sa course d'élan, il s'élance, les petits pas, il ralentit sa course, c'est frappé mollement et il a mis cette balle au fond, le contre-pied parfait. Victoire 4-0, premier trophée pour Christophe Galtier à la tête du Paris Saint-Germain.
Ça y est, le premier trophée de la saison est validé pour Paris. Mission accomplie à Tel Aviv hier face à Nantes avec une démonstration à 4-0 pour les Parisiens. On va retrouver justement à Tel Aviv tout de suite Arthur Perrault et Timothée Mémon qui ont commenté cette belle victoire parisienne hier. Salut messieurs.
Salut Flora, salut à tous.
Salut Flora, bonjour à tous.
Tiens Timothée, puisque t'es là, déjà carton plein quand même pour les Parisiens dans cette pré-saison. La victoire hier dans le trophée des champions qui vient un peu en fait couronner et récompenser tout ça.
Oui, effectivement, une victoire convaincante pour le Paris Saint-Germain. Le PSG, qui avait montré quelques faiblesses défensives pendant sa tournée au Japon, a su hier au Bloomfield Stadium de Tel Aviv se montrer imperméable. C'est une première satisfaction pour Christophe Galtier. Et puis offensivement, on a vu une équipe plutôt bien rodée, de bonnes choses, notamment autour de deux hommes, Neymar et Messi. Lionel Messi avait déçu la saison dernière. On le trouve dans de bonnes dispositions avec des appuis courts très véloces à l'image du but qu'il a inscrit. Et puis Neymar semble lui aussi dans de bonnes dispositions. Alors, Neymar a souvent été critiqué depuis son arrivée au Paris Saint-Germain pour son manque de discipline, mais aussi pour son manque de rendement. Il est à présent souriant à l'entraînement, également exceptionnel lors du match d'hier. Il a vraiment participé au jeu. Alors certes, il y a ses deux buts sur coup de pied arrêté, le coup franc direct qui est splendide, le pénalty qui est inscrit, mais il a vraiment participé à la très bonne prestation du Paris Saint-Germain. Donc très clairement, la soirée d'hier aura été une soirée de satisfaction, une soirée de titre aussi pour Christophe Galtier, même si le coach parisien ne voulait pas s'emballer et expliquait qu'il y avait quand même encore, selon lui, quelques réglages à faire. Il ne voulait pas, estimer que c'était une copie parfaite. Loin s'en faut. Mais bref, le Paris Saint-Germain a réussi son entrée dans une compétition officielle, a réussi son début de saison, a remporté un premier titre, ce qu'il n'avait pas su faire la saison dernière. Donc c'est clairement une très belle soirée à Tel Aviv pour les hommes de Christophe Galtier.
Ouais, mission accomplie pour les Parisiens. T'en parlais justement de Neymar et de Lionel Messi aussi, parce que c'est vrai qu'on les a rarement vus aussi impliqués et appliqués finalement sur le terrain. Tu les as suivis cet été pendant cette pré-saison. Qu'est-ce qui s'est passé dans le groupe parisien pour voir un tel changement chez les deux stars?
Alors j'en ai discuté un petit peu avec Christophe Galtier, c'est plus général au groupe, on a la sensation qu'il y a une vraie volonté de se mettre ensemble au travail, de réussir la saison à venir. Alors évidemment, ce sont les bonnes résolutions de début de saison, combien de temps cela va tenir, on ne sait pas. On espère toute la saison pour le Paris Saint-Germain, mais on ne peut pas mettre de pièces là-dessus. C'est difficile. Reste qu'il y a une vraie volonté de travail, il y a une vraie bonne ambiance de travail, à en croire Christophe Galtier. Et pour revenir à Lionel Messi et à Neymar, pour parler d'abord de l'Argentin, Lionel Messi, il faut quand même se rappeler que la saison dernière, on a beaucoup attendu de lui, mais que aussi grand joueur soit-il, il avait peut-être besoin d'un petit temps d'adaptation. Il n'a pas fait une mauvaise saison la saison dernière. Il a donné 14 passes décisives, 6 buts en championnat. C'est quand même des stats plutôt bonnes. Alors certes, pas à la hauteur du Messi version Barcelone, mais on a l'impression qu'on va peut-être retrouver cette année un bon Messi. Retrouvera-t-on jamais le Messi de Barcelone? Je n'en suis pas sûr, mais on a trouvé un bon Messi. Et puis Neymar, voilà, Neymar semble vouloir prouver au club parisien que Paris doit le garder, puisqu'on avait quand même, il avait semblé transpirer le fait que le PSG n'était pas contre l'idée de s'en séparer. On a l'impression qu'il a envie de donner tort aux dirigeants parisiens, qu'il a envie de montrer ce dont il est capable, de retrouver son meilleur niveau. Neymar, c'est un Brésilien. Les Brésiliens ont aussi la culture de la Coupe du Monde. Et il y a une année de Coupe du Monde. Et pour moi, on peut pas décorréler le fait qu'il fasse une bonne préparation, qu'il soit dans de bonnes dispositions, au fait que dans 3 mois seulement, il y aura le début de la Coupe du Monde au Qatar. Donc il y a peut-être un petit peu de tout ça. Mais enfin, on voit un Neymar souriant, on voit un Neymar heureux, on voit un Neymar qui joue simple. Et ça fait du bien parce qu'il est le meilleur.
Effectivement, il y a peut-être dans un coin de la tête l'objectif Coupe du Monde pour Neymar. Justement, Christophe Galtier, on a parlé de cette relation technique en conférence de presse d'après match. Rien d'étonnant finalement pour le coach parisien.
Concernant toutes ces relations techniques qu'il y a eu entre les uns et les autres, il y a beaucoup de liant entre les lignes, en essayant toujours d'avoir la maîtrise du jeu. C'est aussi l'ADN du Paris Saint-Germain. Mais bien évidemment que j'ai apprécié, on a tous apprécié ce qui s'est passé sur un plan offensif avec beaucoup de bons enchaînements techniques, beaucoup de relations, les uns joués pour les autres. Mais c'est pas nouveau à Paris, avec le talent qu'il y a.
Il y a du talent et tout ça sans Kylian Mbappé, on le rappelle, qui était suspendu pour ce match. Timothée Mémont, toujours à Tel Aviv avec Arthur Perrault. Arthur, l'autre homme qui a marqué des points cet été, c'est Pablo Sarabia, titulaire hier en l'absence de Kylian Mbappé. A priori, il va rester à Paris, mais alors la question qu'on se pose maintenant, c'est celle autour de Mauro Icardi. Qu'est-ce qu'on en fait au PSG ?
Le dossier reste très complexe concernant Mauro Icardi. On rappelle que c'est très compliqué de prendre en charge le montant de son transfert, aussi son salaire. On parle depuis le début de ce mercato estival d'un intérêt de Monza, le club italien. Mais attention, parce que Monza a d'ores et déjà fixé ses conditions et demande notamment au Paris Saint-Germain de prendre en charge 60% du salaire de l'attaquant italien. Ce qui rend la tâche très compliquée. Aujourd'hui, il est relégué presque au rang de numéro 3 à ce poste-là, parce que on rappelle qu'au-dessus de lui, il y a aussi Arnaud Calimuendo, qui a réussi à avoir du temps de jeu du côté de la tournée estivale au Japon et à être décisif à 2 reprises. Mais le tube du moment, c'est Pablo Sarabia, qui, on le rappelle, revient d'un prêt du Sporting Portugal, un prêt très convaincant, réussi, et Christophe Galtier lui fait maintenant totalement confiance. Il l'avait déjà aligné lors du dernier match dans l'archipel face au Gamba Osaka. Pablo Sarabia, qui est encore là, qui a fait ses preuves. C'est vrai que on se posait pas mal de questions, parce que Pablo Sarabia, c'est un profil beaucoup plus de milieu. On sait qu'il n'hésite pas à revenir dans le corps du jeu, alors que Arnaud Calimuendo, lui, va plus avoir tendance à laisser traîner sa jambe dans la surface de réparation lors de remise en profondeur. Voilà pour l'instant la situation. Sarabia est très bien à Paris. Christophe Galtier compte sur lui. Reste à savoir si ce rôle de numéro 2 derrière Kylian Mbappé, qui était, on le rappelle, hier suspendu, sera bien confirmé dans les prochains jours.
Ouais, on rappelle que le mercato n'est pas encore terminé. Ça peut bouger aussi du côté du PSG. Arthur, avant de te laisser prendre l'avion pour rentrer justement à Paris, on le rappelle, reprise de la Ligue 1 ce week-end. Clermont-PSG samedi à 21h. C'est quoi le programme des Parisiens d'ici là ?
Alors les Parisiens qui ont pris l'avion très tôt ce matin ici à Tel Aviv à 8h30 heure locale, 7h30 heure française, il y aura une après-midi tranquille, un jour off pour les joueurs parisiens à leur retour dans la capitale, avec ensuite une séance d'entraînement demain après-demain et également jeudi avec la conférence de presse de Christophe Galtier que vous pourrez évidemment suivre et retrouver le compte-rendu sur rmcsport.fr. Le point médical traditionnel vendredi avant donc cette première journée et ce déplacement samedi du côté de Clermont pour le grand retour de la Ligue 1 pour le club de la capitale.
Merci beaucoup messieurs, Timothée Mémon, Arthur Perrault, bon vol à vous et on vous retrouve évidemment dès ce week-end sur RMC pour la reprise de la Ligue 1. Salut messieurs.
Salut Flora.
À très vite Flora et bonne première.
Merci. sur ce match du PSG, tu l'as regardé d'ailleurs, t'étais devant ta télé hier soir.
Évidemment.
Évidemment. Impressionné par la performance des Parisiens.
Impressionné, non. Ça fait longtemps qu'on attendait ce niveau-là de jeu de la part des Parisiens. Tout a été dit. Je pense que c'est un début de saison. Christophe Galtier, il a un long chemin, mais la première étape, en tout cas, il l'a bien réussi parce que on le disait cette semaine. Le plus important, c'est que les joueurs aient confiance en ce qu'ils voulaient mettre en place et force est d'admettre que ça a l'air d'être le cas pour l'instant, mais en tout cas, bon début de la part de surtout de Christophe Galtier à la tête du PSG.
Ouais, on continue de parler de ce premier trophée de la saison pour le PSG avec toi Olivier, dans quelques instants avec vous aussi, on vous attend au 32-16 votre avis sur la saison du PSG qui démarre à merveille, 18h11 sur RMC, l'Intégral Sport revient juste après ça.
RMC, Intégral Sport,
Flora Moussi.
De retour dans l'Intégral Sport, on va parler de Monaco dans quelques instants qui entame sa saison européenne demain face au PSV, match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Mais d'abord, retour donc sur la belle soirée du PSG hier à Tel Aviv. Déjà un premier trophée pour Christophe Galtier et ses hommes. Le trophée des champions 4-0 face à Nantes. On vous le rappelle, Olivier, toi le Messi du handball, je voulais t'entendre sur la performance de l'Argentin hier. Impressionné ?
Non, t'es allé loin là sur.
Ouais, j'ai tenté la comparaison pour te mettre à l'aise.
Je l'apprends pas. Écoute, là où je suis impressionné, on se demande toujours, tu sais, quand un super joueur perd physiquement, tu te dis bon bah il sera peut-être plus jamais ce qu'il était. Et finalement, ce qui m'a plus surpris, c'est sa condition physique hier, sa capacité à réaccélérer sur le premier but. Donc ouais, ça c'était intéressant et surtout il a retrouvé une place un petit peu de patron. On avait l'impression que l'année passée, bah, finalement, il était au milieu de cette équipe, mais ouais, il était un petit peu en dehors. Et peut-être qu'on aura un Messi grand patron de l'équipe du PSG, c'est ce qu'on attend de lui.
Et on va rappeler en plus que Kylian Mbappé n'était pas là hier. J'ai envie de te dire, qu'est-ce que ça va donner quand les trois vont être ensemble sur le flanc de l'attaque ?
Bah, c'est ça le gros problème, et je pense que le plus gros souci du PSG, ça va être... peut-on associer les trois ?
Attends, tu vois ça comme un problème ?
Non, c'est en tout cas ça l'a déjà été. Ça l'a déjà été. Ça n'a pas apporté plus ses fruits que ça. Et avec beaucoup de blessures, on les a pas souvent vus jouer ensemble l'an passé. Non, la question qu'on se posait, c'est surtout la Mbappé dépendance. Et le match d'hier a prouvé qu'ils peuvent jouer sous un autre style de jeu. Donc associer en plus, si on arrive à associer en plus Kylian Mbappé et sa fulgurance à se projeter vers l'avant, ouais, cette équipe elle peut être inarrêtable.
Bah ouais, parce que tu parlais de patron avec Lionel Messi notamment, mais les clés tu les donnes à qui finalement ? Mbappé qui vient de prolonger, à Lionel Messi avec tous ses ballons d'or, à Neymar et son talent individuel, qu'est-ce que tu fais ?
Bah,
qui est leader ?
Normalement dans une équipe comme celle-là avec des mecs qui ont pratiquement tout gagné hein, les uns et les autres dans leur club respectif et en équipe nationale, honnêtement le patron ça devrait être l'attaque, qui devrait arriver à combiner ensemble comme Benzema et Mbappé sont capables de le faire en équipe de France, pas spécialement le leader, ce sont tous des leaders, donc pourquoi aller chercher un leader quand tu as une équipe où il n'y a que des stars ? À ce moment-là, le seul truc, c'est qu'il faut un coach capable de les faire accepter de jouer ensemble. Le petit ultimatum sur notre ami Ney, bah finalement a porté ses fruits parce que limite on a l'impression qu'il est vexé, qu'il veut montrer qu'il fait partie des meilleurs. Et bizarrement, ce qui était impressionnant dans le match qu'il a réalisé lui hier, c'est qu'il y avait très peu de fioritures à part ses danses qu'on peut contester.
Mais, écoute,
peut faire mieux. Mais en tout cas, sur le plan du jeu, sur la sobriété, c'était intéressant.
Ouais, et c'est vrai que quand on voit cette équipe à ce niveau-là, on se dit que Christophe Galtier cet été a pas chômé et que finalement, quand tu disais qu'il faut aussi un coach capable de gérer ces égos-là aussi pour les faire fonctionner ensemble, il en est capable, Christophe Galtier ?
Ah oui, il en est capable. Après, tu sais, il y a rien d'écrit. C'est ça qui est compliqué, surtout quand t'as une équipe avec énormément de stars. Les plus grands coachs, ils sont parvenus. Des plus grands coachs n'y sont pas parvenus au PSG. On peut le dire. Hein, beaucoup se sont cassés les dents face à cette myriade d'égo. Galtier peut le réussir. Et il a posé. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a posé les règles très clairement dès le début. C'est peut-être ce que n'ont pas fait ses prédécesseurs.
Ouais, le cadre a été très important pour Christophe Galtier. Tiens, Timothée tout à l'heure nous disait que Neymar notamment était à 100% parce qu'il y a la Coupe du Monde cet hiver au Qatar en ligne de mire. C'est vraiment possible ça, toi, quand tu avais une compétition internationale qui arrivait, alors je parle pas de Coupe du Monde parce que c'était plus souvent pour vous, mais de les JO par exemple, ça t'incitait toi à être encore plus performant en club que tu ne l'étais habituellement?
Ouais, ça joue. Inconsciemment ça joue parce que c'est le seul endroit où le sélectionneur peut aller te regarder. C'est pour ça que très souvent sur les gros matchs, Didier Deschamps en est adepte, hein, vont voir les meilleurs joueurs sur les gros événements. Et que bah, Neymar, s'il veut devenir un patron aussi de son équipe nationale, eh ben, il faudra qu'il fasse une grande saison au PSG. Ça serait dommage pour lui de passer à côté de cette Coupe du Monde.
Donc ça veut dire quoi? Après, au mois de janvier, il n'y a plus personne, tout le monde se repose, c'est terminé?
Non,
Je rappelle quand même que les grosses échéances à chaque fois pour le PSG, c'est en février-mars. Hein. C'est au cap-là qu'il faut passer.
Non, mais c'est vrai dans tous les sports collectifs, lorsqu'il y a des grosses échéances, que ce soit des Jeux Olympiques ou une Coupe du Monde pour le foot ou pour le rugby, on se dit toujours que les joueurs auraient tendance à lever le pied. Mais le moment où on lève le pied, en général, c'est là où on se blesse, c'est là où la contre-performance arrive. Donc, on est toujours mitigé, surtout les dernières semaines, le dernier mois avant la Coupe du Monde. Mais bon, si le PSG est amené à jouer, et ce qu'ils espèrent tous, aller le plus loin possible en Ligue des Champion, je vois aucun joueur lever le pied à ce moment-là.
Ouais, on espère, parce que chaque saison, c'est vrai que c'est le plafond de verre un peu pour le PSG. Chaque année, d'énormes exigences autour de Paris. Beaucoup de désillusions aussi, on en a parlé ces dernières années. Marquinhos, lui, préfère oublier le passé.
C'est des philosophies différentes, c'est des schémas différents. Et maintenant, on rentre dans une nouvelle étape. Et je pense qu'il y a eu de belles choses l'an dernier. Cette saison, on le voit, il y a de belles choses. Il faut prendre toujours le bon côté et oublier les mauvaises choses qui ont passé.
On vous attend, on vous le rappelle, au 32-16. Aubin est avec nous. Salut Aubin, merci d'être là avec nous.
Tu l'as remercié trop tôt.
Ouais, Aubin, il a eu peur. Il s'est dit non, en fait, j'ai pas envie d'être. Est-ce que Aubin, tu nous entends? Non. Farid, est-ce que tu es avec nous, Farid? Bah non plus. Mais il y a personne, Olivier, qui a envie de nous parler aujourd'hui.
Si tu veux, on discute tous les deux.
Si tu veux, on peut dire. Ok, bah, très bien. Regarde, écoute.
Tu sais ce qui va être compliqué pour et ce qui est compliqué pour le PSG, que c'est finalement, on a envie de les voir jouer tous les week-ends. Ça veut dire que quand ils jouent comme ça, c'est une équipe qui fait plaisir à voir jouer. C'est que la saison va être très très longue. Se motiver match après match, et en plus avec un effectif, il l'a dit, hein, pour que les joueurs soient plus impliqués, il veut un effectif réduit pour que vraiment que les places soient très claires,
ouais,
l'organisation soit claire.
Il y a plein de joueurs qui sont sur le bas-côté pour l'instant, qui attendent de savoir ce qu'ils vont faire de leur avenir, qui n'étaient même pas du déplacement à Tel Aviv, effectivement, qui ne s'entraînent pas avec le groupe, qui s'entraînent à part. Il y a vraiment aussi le mercato pas terminé, on le rappelle, mais c'est vrai qu'il y a un vrai ménage à faire de ce côté-là, notamment pour alléger la masse salariale.
Ah bah, l'expression les lofters allait très bien au PSG. On avait l'impression que jouer ou ne pas jouer, le plus important, c'était de rester au PSG. Et il y a myriade de joueurs, hein, encore dans l'effectif, qui porte un petit peu cette idée de ne pas vouloir partir d'un club parce qu'on est très très bien payé dans un club, limite à en oublier l'essence même du football.
Comment c'est possible ça, Olivier, quand on est footballeur, sportif de haut niveau, d'être intéressé simplement par le cachet qu'on prend à la fin de l'année? Les joueurs nous le répètent en permanence, on a envie de jouer, moi j'ai envie de jouer, j'ai envie d'être titulaire, j'ai envie d'être sur la pelouse, j'ai envie d'avoir le ballon près de moi. Comment c'est possible qu'on puisse se contenter d'un entraînement par-ci par-là à l'écart du groupe principal? En plus,
parce que à mon avis, à l'extérieur, ça doit être vraiment vraiment agréable de faire partie de cette équipe du PSG. La ville est très agréable, il y a énormément de choses à voir pour ceux qui viennent de l'extérieur, mais vraiment c'est une mentalité qu'on n'avait pas vue dans le foot il y a encore 5 ans. Aujourd'hui, ça a l'air plutôt à la mode, c'est-à-dire qu'on prend un très gros contrat. Si on ne prend pas plus gros ailleurs ou dans une ville qui nous plaît, parce que le cadre de vie apparemment est important aussi, Paris plaît énormément pour ça, et ben des joueurs font le choix de rester dans le club, quitte à ne pas jouer, quitte à perdre leur niveau de jeu.
Oui, mais c'est ça, parce que tu mets ta carrière en stand-by pendant un moment. Je veux dire, il y a tellement de joueurs qui arrivent au haut niveau aujourd'hui. Au bout d'un moment, Ander Herrera, Van der Wiel, c'est des joueurs qui vont disparaître du paysage du football aujourd'hui. Je veux dire, c'est quand même compliqué. C'est pas des joueurs qui sont forcément en fin de carrière non plus. Mmh. Ils ont encore des belles années devant eux. Comment se restreindre seulement à être payé à la fin du mois pour s'entraîner une ou deux fois par semaine à l'écart du groupe?
Bah, écoute, c'est la question que j'aimerais énormément qu'à un moment certains journalistes posent à ces joueurs. Que faites-vous encore ici? Et pourquoi?
Et tu crois que ça dépend que d'eux?
Oui, il y a les agents, et puis après il y a certains qui ont des relations familiales particulières avec où ce ne sont pas les seuls qui décident. Ouais, ça ressemble un petit peu au Lofter, un petit roman photo plus que du foot. C'était un petit peu ça la mimique du PSG pendant très longtemps, mais c'est en passe de changer apparemment.
Ouais, en tout cas, ce nouveau PSG porte la marque aussi de Christophe Galtier, qui a validé son premier trophée avec le PSG, soulagé le coach parisien.
C'est pas le terme soulagement. On accepte de prendre le poste d'entraîneur au Paris Saint-Germain. On est dans une obligation de gagner. Mieux on joue, plus on a de chances de l'emporter. Mais c'est aussi par rapport au groupe et par rapport à ce que nous mettons en place. Il était important que l'on démarre la saison par cette victoire, par ce trophée-là. À titre personnel, évidemment que je suis content, mais c'est pas le terme soulager. C'est que ça doit nous conforter sur ce que nous proposons tout au long de la semaine dans les séances d'entraînement et sur ce que je demande aux joueurs en match. Pour être très bien dans ce début de championnat.
Bon, c'était important de valider ce trophée, Olivier. C'était un petit peu, j'ai envie de dire, le minimum syndical pour le PSG cette saison.
C'est dur quand même. Hein.
C'est dur à dire pour le PSG quand même. Mais quand on voit tous les trophées qu'ils sont capables de remporter, il y a évidemment la Ligue 1 qui est l'un des objectifs principaux. Mais comment ne pas parler de la Ligue des Champions? Je veux dire, le reste de la saison reste le plus important.
Mais tu te rends compte, on est en train de parler de la fin de la Ligue des Champions alors que le championnat n'a pas encore commencé. Oui. C'est tout
l'exigence qu'il y a autour du PSG.
L'exigence et la bizarrerie autour de ce club du PSG. C'est-à-dire que là où pour n'importe quel club de la Ligue 1, être premier du championnat serait une chose extraordinaire, ça serait la fête dans toute la ville, c'est devenu comme quelque chose de normal, le trophée des champions, quelque chose de normal, il serait anormal de perdre.
C'est aussi pour ça qu'on en vient à dire que on peut quand même être surpris après quand ils le perdent. Et effectivement, les exigences viennent de là aussi, c'est-à-dire qu'on en attend d'autant plus après eux chaque année.
Et écoute, le respect, tu l'obtiens souvent de tes adversaires. C'est-à-dire que ces dernières années, les errances du PSG en termes de managériat ont procédé à quelque chose d'assez particulier, c'est que les équipes adverses n'avaient plus peur du PSG. Ils n'avaient plus de respect pour cette équipe, même s'il y avait des stars. Alors le truc, c'était de battre le PSG.
C'était l'objectif de la saison.
Et beaucoup y sont parvenus d'ailleurs. Mmh. Beaucoup y sont parvenus qui prouvaient que, un groupe peut-être moins doué, mais un groupe soudé, pouvait battre largement cette équipe-là. Ce qu'on a vu hier, il y avait aussi on a entendu Christophe Galtier, mais on aurait pu aussi entendre Antoine Camboire. Antoine Camboire, le discours était très clair. Face à ce PSG-là, s'il est capable de jouer comme ça, il est imbattable. Et quand on reçoit ça, à la fois des joueurs de l'équipe adverse, mais aussi de l'entraîneur de l'équipe adverse, qui vous a battu la saison précédente, qui a battu aussi Christophe Galtier la saison précédente, je pense que c'est le meilleur signe pour se dire que ce PSG-là peut retrouver un certain respect. Mais attention, ils n'ont joué qu'un match pour l'instant.
Et la saison va être très longue pour les Parisiens. Allez, dans quelques instants, on va parler de Monaco qui débute sa saison européenne demain. Et puis les toutes dernières infos Mercato avec le Mercato Show d'Arnaud Souk. Restez bien avec nous. L'Intégral Sport revient tout de suite sur AMC.
RMC Intégral Sport.
Flora Messi.
18h27 sur RMC dans l'Intégral Sport. Philippe Saint-André, le manager du champion de France en titre Montpellier, sera avec nous tout à l'heure. On parlera F1 aussi avec la nouvelle désillusion pour Ferrari. Mais d'abord, on reste avec le foot. Monaco, début de la nouvelle saison européenne des Monégasques demain, 20h face au PSV, troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. On va prendre la direction du soleil un petit peu, Olivier, de la Côte d'Azur avec notre correspondant Maxime Tilliette. Salut Maxime.
Salut, bonsoir à tous.
Tu suis les Monégasques au quotidien pour RMC. Comment tu les sens justement? Est-ce qu'on peut être confiant avant ce match si important pour la saison des Monégasques?
Bah oui, il faut partir confiant, surtout sur un premier match d'une saison. Alors certes, les résultats pendant la préparation ont été en dents de scie avec 3 victoires, 3 nuls et 2 défaites, 10 buts encaissés en 8 matchs. Mais eh bien, l'ASM arrive fort de son expérience, de sa 3e place, qui a failli être une 2e place. Hein, ça s'est joué à quelques secondes à la toute fin de journée du championnat. Puis les Monégasques qui avaient battu cette équipe du PSV Eindhoven la saison passée, 0-0 à l'aller, 2-1 au match retour. C'était sur la pelouse du Philips Stadion en Europa League.
Ouais, en face, c'est pas n'importe qui quand même, Maxime, on va le rappeler, le PSV de Ruud van Nistelrooy, pour les puristes du foot, vous souvenez cet attaquant néerlandais qui vient de taper en plus l'Ajax, hein, 5 buts à 3 en finale de la Supercoupe des Pays-Bas. Il y a une vraie concurrence en face. Hein.
Oui, c'est ça. Il a très bien réussi ses débuts, l'ex-attaquant de Manchester United et du Real. C'est une équipe très jeune, très joueuse, dont se méfie beaucoup Philippe Clément, l'entraîneur de l'AS Monaco. Il sait qu'il va avoir affaire à une équipe qui a beaucoup de volonté offensive. On atteste ses 5 buts marqués face à l'Ajax Amsterdam, un grand collectif avec également quelques joueurs d'expérience et puis des joueurs qu'on connaît notamment en Ligue 1, avec dans les buts Walter Benitez, l'ancien gardien de l'OGC Nice, le voisin, et puis également des joueurs plus comme Cody Gakpo qui est l'une des pépites de cette équipe.
Ouais, Monaco, Olivier, on le rappelle, sorti en barrage de Ligue des Champions la saison dernière face au Shakhtar Donetsk. Du coup, ils avaient raté la phase de groupe pour rien, alors qu'ils menaient 2-0 au match retour. C'était il y a un an tout pile, énorme désillusion pour eux à ce moment-là. Ça reste dans la tête, ça, Olivier, quand on est sportif, on y pense?
Bah, évidemment, ça reste. C'est ce qui est particulier selon les équipes du championnat. Par exemple, pour une équipe comme Nantes, on en parlait tout à l'heure, il est facile de débuter son championnat tranquillement. Donc, c'est pas affligeant d'avoir perdu contre le PSG.
Surtout pour le PSG, il faut montrer tout de suite.
Et pour Monaco, c'est tout autre chose. C'est qu'il faut être tout de suite à 100%, parce que on parlait des objectifs de la Ligue des Champions, de ce que rapporte financièrement, mais aussi en tant que prestige la Ligue des Champions. Monaco est une équipe qui veut jouer la Ligue des Champions, qui ne veut pas la louper. Et pour cela, eh ben, il n'y a pas droit à l'erreur tout de suite. Donc c'est tout de suite énormément de pression et tout dépendra de la manière dont Monaco aura vécu sa préparation. Il faudra être l'équipe la mieux préparée.
Comment on la gère, toi? Parce que cette pression, tu la connais avec l'équipe de France, avec ses multiples confrontations avec la Croatie, notamment en handball avec les Bleus. C'était compliqué. Tu avais cette appréhension à chaque fois que tu les retrouvais?
Oui, tu l'as toujours. Et après, ça dépend comment tu les rencontres. Si tu les rencontres lors d'un match de poule, si t'es déjà en Ligue des Champions, ou si tu les joues, ou si tu les joues sur un match couperet. Et quand tu joues sur un match couperet, jouer à domicile ou à l'extérieur ne change pas grand-chose. Tu me diras, pour Monaco, des fois, c'est compliqué de jouer à domicile. Mais il ne faudra pas rater ce match. Et c'est surtout ces équipes, ce type d'équipes comme le PSV Eindhoven, ce sont souvent des équipes qui sont révélateurs de nouvelles pépites du football mondial. Eh ben, espérons qu'il n'y en a pas encore une qui va sortir pour priver Monaco de son rêve de Ligue des Champions.
Ouais, effectivement, Maxime Tilliette à Monaco. On va quand même rappeler, Maxime, que ce rêve de Ligue des Champions, pour y accéder, la route, elle est quand même encore longue pour aller arriver jusqu'aux phases de groupe.
C'est ça, il y a cette double confrontation qui en plus vient se mêler avec le début du championnat, donc ça va faire un enchaînement de matchs, 9 rencontres prévues lors du mois d'août pour l'AS Monaco. Et donc après cette double confrontation face au PSV, en cas de victoire, il y aura un autre barrage, une nouvelle double confrontation, et s'il y a en revanche une défaite face au PSV, eh bien ce sera un barrage pour accéder aux phases de groupe d'Europa League, comme Monaco avait pu être reversé la saison passée.
Ouais, effectivement, et entre tout ça, il y aura la reprise de la Ligue 1 aussi, Olivier, va falloir enchaîner les matchs pour les Monégasques entre les enjeux européens, évidemment cet objectif de phase de groupe de la Ligue des Champions, et puis l'importance de bien débuter aussi en Ligue 1, parce qu'on sait que ça va très vite.
Ouais, il va falloir qu'ils soient bons sur tous les tableaux, et la Ligue 1, pour ceux qui veulent espérer en fin de saison obtenir l'accessit direct pour la Ligue des Champions, eh ben, il ne faut pas rater le début de championnat, donc tout peut se passer pour Monaco, ils peuvent passer par tous les ascenseurs émotionnels.
Et nous aussi avec eux.
Et nous avec eux. Et aussi pour la force, les indices UEFA de la France, il est important que nous ayons des clubs qui passent par les barrages et qui réussissent ces barrages. Avoir 3 clubs en Ligue des Champions, ça serait phénoménal pour la France.
Un mot du mercato aussi, quand même, du côté de Monaco. Aurélien Tchouaméni, on le rappelle, parti au Real Madrid pour 100 millions d'euros, bonus compris. Toujours pas remplacé, mais pas de quoi inquiéter pour autant. Le coach monégasque, Philippe Clément.
suis jamais inquiète parce que j'ai toujours confiance de mes joueurs, ma sélection. J'ai aussi confiance de mes dirigeants. On veut encore faire un transfert dans cette position. C'est clair pour tout le monde. Mais ça donne maintenant la chance pour les autres pour prouver qu'ils ont les qualités pour prendre beaucoup de minutes.
Maxime, du coup, c'est quoi les pistes possibles pour remplacer Aurélien Tchouaméni?
Alors, dans l'immédiat, demain soir, ça risque de se jouer entre Jean Lucas, le Brésilien passé par Lyon et Brest, ou sinon Elliot Matadzo. Après, au niveau du mercato, eh bien, ça devrait se décanter en fonction des résultats lors de ces qualifications pour la Ligue des Champions. Si on se qualifie pour la plus prestigieuse des Coupes d'Europe, on peut aller chercher peut-être un joueur un petit peu plus fort, talentueux, un nom clinquant. Il y a le nom notamment d'Adrien Rabiot qui a été dévoilé dans la presse italienne. Et puis, il y a Boubacari Soumaré qui joue du côté de Leicester également. En revanche, s'il y a une qualification pour l'Europa League, et bien là, on devrait essayer de trouver d'autres profils. En tout cas, pour le moment, et bien c'est Elliot Matadzo et Jean Lucas qui ont leur chance et qui peut-être vont devoir et bien se créer leur place.
On vous attend au 32-16 pour vos réactions. On est avec Abdel, supporter de Monaco. Salut Abdel, tu nous entends?
Oui, salut Flora, salut Olivier.
Vous salut Abdel.
On parlait justement du mercato de Monaco. Est-ce que toi, le départ d'Aurélien Tchouaméni, déjà ça fait mal forcément pour les monégasques. Est-ce que tu es inquiet qu'il ne soit pas encore remplacé pour le moment?
Moi, je suis très inquiet parce que le mercato de Paul Mitchell, je le trouve vraiment très déséquilibré. Pour moi, la priorité, ça aurait été de prendre un défenseur central et un numéro 6 pour remplacer Aurélien Tchouaméni. Et on n'a pris que des attaquants et des ailiers. En plus, demain, on a Benoît Badiachil, si je ne me trompe pas, qui est incertain, alors que c'est notre meilleur défenseur central. Et j'ai vu le PSV Eindhoven jouer samedi contre l'Ajax. Mais franchement, c'est une très, très belle équipe. Du coup, normalement, demain, ça va être un match très, très ouvert. Ça va dépendre de l'efficacité de notre duo Voland et Ben Yedder. Mais franchement, moi, je trouve que l'effectif est juste, surtout qu'au mois d'août, on a un calendrier très, très compliqué. On joue Strasbourg, Lens, Rennes, le PSG, plus les deux matchs de TP3 et peut-être les deux autres matchs de barrage contre le Benfica ou Glasgow, du coup, si on se qualifie.
Ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup. Quand on énumère tout ça, on a de quoi avoir peur pour les monégasques. Tiens, toi, qui es supporter, saison ratée si jamais il n'y a pas de Ligue des Champions?
En tout cas, pour moi, le mercato, ça serait un échec. Et cette fois-ci, Paul Mitchell ne pourra plus se cacher, on va dire, derrière Kovac, comme la saison dernière. Parce que cette fois-ci, il est plus là. Il a Philippe Clément. Il a eu un mois pour trouver un remplaçant à Aurélien Tchouaméni. Il y a eu la piste Soumaré, la piste Onana, et on n'a toujours pas de joueur à ce poste-là.
Ouais, effectivement, c'est vrai que c'est des vrais manquements aussi pour le board monégasque. Il y a eu un vrai trou d'air, Olivier, la saison dernière pour Monaco, qui explique aussi que les monégasques se retrouvent en tour préliminaire pour accéder à cette Ligue des Champions. Monaco fait encore partie des grands clubs de Ligue 1 aujourd'hui?
Bah oui, évidemment. Limite, on se pose la question assez souvent, à peu près tous les 3 ans, si Monaco fait toujours partie des grands clubs. Évidemment qu'ils le font, mais pour en faire vraiment partie, on le disait tout à l'heure, il faut jouer cette Ligue des Champions, il faut être vu sur la scène, la plus haute scène européenne. Non, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est ces 100 millions récupérés sur Tchouaméni, ouais. Et finalement, ce risque qui n'est pas pris immédiatement, parce que l'objectif, il est de se qualifier pour la Ligue des Champions. Mais on a l'impression qu'on joue un petit peu l'expérience à l'envers, on ne prend pas de risque et on espère être qualifié en Ligue des Champions et après investir sur un joueur. L'avenir, en tout cas, nous dira rapidement si ils ont eu raison de ne pas prendre ce risque d'aller chercher peut-être un Rabiot tout de suite, ou est-ce qu'un Rabiot n'accepterait de venir à Monaco que si Monaco était qualifié en Ligue des Champions. Je pense qu'il y a un petit peu de tout ça qui fait que ça va être compliqué.
Ça complique les choses. Abdel, tu parlais justement de ce calendrier un petit peu infernal qui attend les monégasques. Est-ce que quand tu vois l'effectif aujourd'hui de Philippe Clément, tu penses que l'ASM a les moyens de gérer à la fois la Ligue 1 et la Coupe d'Europe avec les enchaînements des matchs?
Non, pour moi, ça va être très très compliqué. Il faut absolument un milieu de terrain et un défenseur. Mais surtout que l'année dernière, c'est à partir du moment où on se fait éliminer de la Coupe d'Europe contre Braga qu'on fait notre série de 9 victoires et un match nul. Donc pour moi, on n'a clairement pas l'effectif pour jouer Coupe d'Europe et championnat en même temps. Surtout qu'avec la Coupe du Monde au Qatar, il va y avoir des matchs tous les 3 jours jusqu'au mois de novembre.
Ouais, c'est vrai que ça aussi, ça bouscule aussi un petit peu le calendrier de la Ligue 1, notamment, et même des Coupes d'Europe, parce que les matchs vont s'enchaîner, notamment en Ligue des Champions en phase de groupe, si jamais les Monégasques se qualifient. L'objectif pour toi cette saison de Monaco, on va parler juste de la Ligue 1, c'est quoi? Terminer sur le podium, encore plus haut?
Non, pour moi, c'est de terminer vraiment deuxième pour éviter ces tours de barrage, ces tours de barrage chaque saison. Donc pour moi, c'est uniquement la deuxième place cette saison.
18h38, vous êtes toujours sur RMC. Merci beaucoup Abdel qui nous a appelé au 32-16 d'être avec nous dans l'intégrale sport. On parlait du mercato de Monaco. On va faire un point sur les toutes dernières infos avec le mercato chaud dans quelques instants. Et puis on parlera Formule 1 aussi. Je sais que Olivier est très fringant de Formule 1. Quel est le problème de Ferrari après la nouvelle désillusion en Hongrie? L'intégrale sport continue. On se retrouve dans quelques minutes.
RMC, intégrale sport.
Flora Moussi.
Allez, bientôt 18h42 sur RMC. Vous êtes toujours dans l'intégrale sport. Et tout de suite, c'est l'heure des dernières infos transfert.
RMC,
le Mercato Show.
Arnaud Souk de la rédaction d'RMC est avec nous. Salut Arnaud. T'as plein de petites infos dans ta besace.
Oui.
Avec notamment, tiens, une très bonne nouvelle bientôt, a priori, pour les supporters de Marseille.
Oui, puisque Alexis Sanchez donc serait tout proche de l'OM, hein, selon la Gazzetta dello Sport et des médias chinois, sur le point de rejoindre le club phocéen, de quoi éclaircir aussi un horizon un petit peu bouché, hein, pour l'instant, pour les Marseillais sur le front de l'attaque. Ça a l'air avancé par le quotidien sportif italien. 3 millions d'euros par an pour les deux prochaines saisons. Alors attention quand même, il devrait falloir pour Marseille se séparer d'un ou deux de ses attaquants actuels. Et pour Sanchez, il va falloir résilier son contrat avec l'Inter. Sanchez, 33 ans, qui a connu la période la plus prolifique de sa carrière lorsqu'il était à Arsenal. Statistique de Gary Mabot d'Optafax, il a notamment inscrit entre 2014 et 2018 avec les Gunners 80 buts en 166 matchs.
Ça, c'est un peu le gros pari quand même, Olivier, de relancer Alexis Sanchez à l'OM.
Non, parce que l'OM de toute manière a besoin d'un attaquant qui brille. Il y a longtemps qu'on n'a pas eu un très grand attaquant à l'OM.
Est-ce qu'il y a le grand attaquant, c'est ça que tu es en train de me dire.
Non, ça tu peux pas le savoir, et surtout ne le dis pas avant, parce que si ça tu te plantes, ça va te revenir dessus. Mais oui, ils sont obligés de faire ce pari-là. Mais moi, ce qui m'intéresserait, Arnaud, c'est de savoir de qui il se séparerait pour prendre Alexis Sanchez. Bah, voilà. Qui serait prêt à partir.
C'est ça le problème, c'est trouver des attaquants qui soient prêts à partir.
Est-ce que c'est Milik qui va partir? Voilà,
c'est pas vraiment dans les cartons pour l'instant.
Voilà.
On accueille Frédéric, supporter de l'OM au 32-16. Salut Frédéric, merci d'être avec nous.
Salut.
Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, de la probable arrivée d'Alexis Sanchez?
Moi, il y a quelque chose qui me choque. Là, je vais vous dire la vérité. Oui, allô?
Oui, on t'entend.
Oui. Alors, ce qui me choque, moi, c'est que on me dit que Tudor veut jouer rapidement vers l'avant et jouer beaucoup en profondeur, voire même en contre. Alors, je me dis que Alexis Sanchez, a tout sauf ses qualités pour jouer de vitesse, pour jouer en profondeur ou n'importe quoi. C'est absolument pas le type de joueur qu'il faut, comme d'ailleurs Milic, qui n'est pas un joueur de profondeur, qui n'est pas un joueur qui on joue pas en contre avec ce type de joueur. On joue avec des
attaques. Alors, qui aurait le profil selon toi? Qui irait chercher qui, toi?
Actuellement, actuellement, un joueur de profondeur, j'en vois pas. Il aurait fallu s'en occuper bien avant, je pense. Si on savait qu'on allait jouer dans ce schéma de jeu. Parce que moi, les pistons, tout et tout, c'est bien gentil. Si on déborde vraiment et qu'on centre, à ce moment-là, Milik et même Alexis Sanchez vont apporter quelque chose. Mais si on joue sur la vitesse, en essayant de récupérer le ventre très vite et de jouer en profondeur, c'est pas du tout le type de joueur. Voilà, c'est ça. Et moi, ce qui se passe à l'OM actuellement, ça m'inquiète. C'est la première fois, parce que bon, l'année dernière, je me suis disputé avec tout le monde, avec Sampaoli, parce que j'avais toujours les chiffres à leur mettre. On me disait, ouais, la défense à 3. La défense à 3, on n'a jamais pris aussi peu de buts. La manière de jouer ne plaisait pas tout le monde. Mais moi, je disais que les résultats étaient là et on voyait quand même quelque chose. Et là, pour l'instant, c'est la première fois sur une préparation que je vois même pas des brides de matchs intéressantes. J'ai rien vu.
Ouais, c'est vrai, voilà. Que la pré-saison est un peu compliquée pour les joueurs de Marseille. On parle d'une réunion de crise aujourd'hui, hein, du côté de la commanderie. Les joueurs auraient réclamé une réunion. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure dans l'after à partir de 20h avec François Pinet. Qu'est-ce que tu en penses, toi, justement? Ça sent pas très bon quand même dans ce début de saison.
Ça sent pas bon du tout. C'est pour ça que si jamais il doit y avoir un problème avec l'entraîneur, autant que ça soit maintenant, quoi.
Ah oui, carrément.
Oui.
Tu lui laisses, laisses même pas le bénéfice du doute, le début de la saison, pour voir.
Oui, moi je lui laisserai. Honnêtement, je lui laisserai. Parce que je sais qu'en Italie, les préparations sont très lourdes. Et il a joué toute sa carrière en Italie. Donc les joueurs, même Guendouzi, il est en retard, alors que Guendouzi est toujours en avance et toujours sur le ballon. Là, il n'en pouvait plus. Donc, allez, admettons que ce soit une préparation qui est très lourde et qui va mettre du temps et apporter ses fruits. Mais quand même, j'ai rien vu. Rien du tout. Ouais. Même pas. Je sais pas. C'est ça qui m'inquiète. Mais il y a deux solutions. Il y a des pour. Ou bien on crève l'abcès tout de suite et on passe à autre chose. Moi, je suis honnête. Hein, je préférais beaucoup le profil de Deserbi parce que c'était un jeu de possession, un jeu plus joueur, un type qui était plus près des joueurs, plus jeune, moins strict que le Croate. Hein. Le Croate, il est...
Ah oui, c'est un autre profil.
Il est croate.
Il lançait quelque chose, Olivier. Ouais. Toi, justement, Olivier, t'as regardé un petit peu le match face au Milan hier. T'es pas du tout convaincu, là, par la pré-saison des Marseillais?
Je vais être dur, hein. Frédéric a raison. Hier contre le Milan, c'était à des moments assez pathétiques. On avait l'impression qu'il y avait deux classes de différence. Ouais. Et c'est surtout quand on pense, on se dit toujours que bon, ça ne reste que des test-matchs, des matchs amicaux. Mais souvent, ils te montrent de la cohésion. Ils te montrent un peu comment la préparation s'est passée sans te dire que tu dois gagner tous les matchs. Et là, pour tout dire, j'ai pas vu grand chose.
Ouais, et toi, tu y crois pour le coup à l'électrochoc avec Tudor? Tu disais à Frédéric de laisser peut-être un petit peu de temps quand même au coach. Toi, tu y crois?
Non, ce qui est intéressant, c'est que pendant très longtemps, les joueurs laissaient courir. Et quand il y a réunion de crise...
Avant même le début de la saison.
Avant le début de la saison, souvent, c'est que les joueurs ont à se parler. Et dans ce cas précis, c'est souvent une bonne chose que les joueurs se rendent compte d'eux-mêmes que ça ne joue pas bien, qu'il faut plus s'investir et que la réaction, souvent, elle doit venir des joueurs.
Ouais, et Frédéric,
je peux dire quelque chose?
Ouais, oui, bien sûr.
Alors, moi, je veux dire quelque chose. Quand on parle d'une réunion avec les joueurs, parce que ça va pas, c'est en général, ça va pas entre les joueurs. C'est entre les joueurs qu'il y a des problèmes et ils se parlent entre eux pour remettre les choses à plat. Mais là, c'est pas le cas. C'est avec l'entraîneur. Mm. C'est autre chose. C'est pas la même façon qu'un entraîneur. Et s'il commence déjà à y avoir des histoires, quand on va aligner 3 ou 4 défaites d'affilée, ça va être le feu, quoi.
Ça risque quand même d'être compliqué, parce que imaginons qu'on puisse changer d'entraîneur assez rapidement dans la saison. En général, toute la préparation, elle est quand même, il y a quand même une stratégie de préparation. Et là, ça serait repartir à zéro, alors que pour l'instant, l'OM n'a rien perdu. C'est vrai que les matchs de préparation, ils étaient pas probants. Il faut avouer, c'était pas terrible.
On repart à zéro, pas physiquement. On va repartir à zéro tactiquement. Moi, c'est ça qui me gêne. C'est plus la manière de jouer. Je la comprends pas. Bon, des fois, sans Paoli, on ne comprenait pas tout. Mais on voyait quand même des choses. Tandis que là, je comprends pas. Devant mettre le Suarez, bon, c'est sûr qu'il faut le mettre, on vient de le recruter.
Bah oui.
Mais le type tout seul, et il voit pas un ballon venir. Hein. Et il manque de technique aussi au milieu de terrain. Moi, je suis bien content qu'on mette des coureurs à pied et qu'on en mette des tonnes. Mais à des moments, même un type comme Harit avait un minimum de technique. Une technique un peu de création, on l'a pas. Moi, je veux dire, ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas pris le Brésilien qui était en Russie, Claudinho. Lui, il doit apporter un plus technique pour faire des décalages et tout.
Et
là, moi, je me fais un peu de soucis quand même.
Si jamais ça marche quand même cette saison, mais que le beau jeu, il n'est pas là, tu serais comment à la fin de la saison, satisfait ou pas? Parce que c'est vrai que les supporters marseillais ont une vraie exigence quand même sur la qualité de jeu proposée par leur équipe.
Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Si jamais on a les résultats, je dis bien on a les résultats, mais que ça n'a pas plu, je dirais que ça me plaît pas, mais je ne critiquerai pas. Voilà. Ça dépend de ce qu'on veut. Si on veut des résultats, parce que pendant des années, nous les Français, on dit oui, nous on a le beau jeu, mais les Italiens ils gagnent toujours l'arrivée. Eh ben oui, les Italiens gagnaient, ils prenaient des titres, et on prenait rien, on prenait l'air.
Ouais, voilà. Et au final, on se rappelle des titres finalement à la fin de la saison.
Et c'est ça. À l'arrivée, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura un titre ou pas? C'est tout.
Effectivement, merci beaucoup Frédéric d'avoir été avec nous 32-16 sur AMC dans l'intégral sport. Une petite stat tiens sur Alexis Sanchez.
Oui, non, simplement pour dire, alors c'est vrai que ça va peut-être inquiéter les supporters de l'Olympique de Marseille.
Ils ont l'air déjà bien inquiets.
Voilà, je vais pas rassurer grand monde. 107 matchs à l'Inter Milan pour Alexis Sanchez, seulement 20 buts dont 9 la saison dernière. Il joue beaucoup mais marque finalement assez peu, fait quelques passes décisives. C'est quand même, voilà, c'est pas non plus la garantie absolue d'avoir quelqu'un qui sur le front offensif puisse apporter un plus indéniable en fait. Voilà, ouais.
C'est même avant à Manchester United, c'était déjà pas très probant, donc effectivement c'est pas le premier nom auquel on aurait pensé. On va parler d'un Espagnol, tiens, Cesc Fabregas, qu'on connaît bien aussi en Ligue 1, qui se relance, alors lui, en Série B.
Oui, Série B italienne, c'est un petit peu la surprise du chef. Un contrat de 2 ans a été offert au champion du monde 2010 par Com, le club de Com, un nouveau et donc peut-être ultime défi pour Cesc Fabregas, qui était en fin de contrat à Monaco. Avant même l'annonce du transfert par le club qui est situé dans le nord de l'Italie, le site de la Série B a donc officialisé l'arrivée prestigieuse du Catalan dans sa section, en listant notamment les nouveaux contrats homologués.
Franchement, c'est pas un peu dur quand même? Ça sent un peu la fin de carrière là pour Cesc Fabregas. Il n'y avait pas un autre club dans un plus autre standing pour accueillir le champion du monde espagnol.
Non, mais tu sais, tu peux pas être à avoir été à un moment. Ce qui est important, c'est pas est-ce qu'il devrait arrêter, continuer. C'est est-ce qu'il aime toujours le foot.
Et tu sais quoi, on en revient à notre discours tout à l'heure sur les lofters qui voulaient pas jouer et qui préféraient être payés que jouer. Bah lui, il préfère jouer.
Et bah lui, il aime le foot tout simplement. Et je pense qu'avec sa technique, dans un club de série B, à la fois pour la notoriété de ce club et à la fois lui aussi voir un nouveau championnat. Je trouve ça intéressant quand c'est dans ce cadre-là. Mm-hmm. Quand c'est dans le cadre, j'ai encore envie de jouer au foot.
Ça apporte vraiment le vieux briscard, on va dire. Voilà.
Ouais, ça peut en série B, ouais, ça peut servir. Après, faut construire l'équipe avec des gens qui courent autour. Hein. Plus tu vieillis, plus faut qu'il y ait des gens qui courent à côté de toi.
Mais c'est quoi? C'est psychologiquement l'apport, on va dire, d'un joueur pareil.
Psychologiquement, dans la connaissance du foot, tu sais, à un moment quand techniquement t'es très fort, et ben tu gagnes du temps. Et plus tu vieillis, plus t'as intérêt d'être bon techniquement pour gagner du temps parce que t'en perds sur ta condition physique.
Une officialisation, Arnaud, du côté de Nice maintenant.
Oui, absolument, avec l'arrivée d'Alexis Beka en provenance du Lokomotiv Moscou, le milieu de terrain international espoir français de 21 ans qui fait donc son retour en France un an après l'avoir quitté. Le montant de la transaction serait de 12 millions d'euros. La durée du contrat n'a pas encore été confirmée. Ça serait a priori 5 saisons. Il a été formé au Stade Malherbe de Caen, hein, qu'il avait donc quitté l'été dernier pour la Russie. Beka, il a notamment disputé les JO de Tokyo avec les Bleus l'été dernier. Tiens, petite citation à lire sur le site du club azurin, l'OGC Nice se félicite de l'arrivée d'un jeune joueur pétri de qualité doté d'une belle marge de progression qui offrira un profil différent au coach dans l'entrejeu.
Alors là, cette news-là, je ne l'avais pas vu venir, mais alors Nice qui s'intéresse à Aaron Ramsey.
Absolument, libéré par la Juventus Turin après avoir passé les 6 derniers mois en prêt aux Rangers. Le milieu gallois Aaron Ramsey était convoité par Charlotte, notamment en Major League Soccer, mais il penche vers l'OGC Nice qui est bien parti a priori pour l'attirer. Blessé, très peu utilisé par la Juve lors de la phase aller de la saison dernière, Ramsey a été prêté donc aux Rangers en janvier. Il a atteint tout de même la finale de la Ligue Europa, hein, qu'il avait perdu contre l'Eintracht Francfort. Il doit venir notamment donc renforcer un secteur déjà dense, le gym qui cherche ainsi par ailleurs à céder Mario Lemina et Morgan Schneiderlin. Et puis aussi pour dire que le gym est très actif sur le marché des transferts enfin, puisque lorgne toujours l'arrivée de Kasper Schmeichel dans les buts.
Ça, ce serait aussi assez fou, Olivier. Quel projet finalement pour Nice cette saison en Ligue 1? Ça se renforce quand même grandement.
Ouais, ce sont des projets, et à chaque fois on regarde les profils des clubs aussi, hein. Le profil de Nice, c'est un mélange de tout, d'être malin sur les transferts, d'attendre un petit peu, de trouver des bonnes pistes qu'on pourra peut-être revendre plus tard parce qu'ils ont été pas mal pendant très longtemps sur le marché des transferts, et un mélange avec aussi des joueurs avec une continuité dans les joueurs du club, pas trop changer, mais voilà, faire les bonnes pioches. Tout le monde essaye de le faire. On voit Marseille qui galère un petit peu sur ce chemin-là, et c'est un autre chemin celui de Marseille parce que c'est le chemin de la Ligue des Champions, c'est pas du tout le même.
Ah, c'est pas les mêmes ambitions, hein. Nice ne peuvent pas viser la Ligue des Champions. Hein.
Non, en fait, on vise la Ligue des Champions pour la saison d'après. Donc
sur le plus long terme.
Dans la construction dans la saison, la construction de la saison est bâtie sur le championnat. Tandis que pour Marseille, la construction de la saison, elle est construite sur la Ligue des Champions. Et bien existant en Ligue des Champions, on le sait, hein, ça passerait très très mal de faire zéro point en poule.
Est-ce qu'il n'y a pas une petite manie quand même en Ligue 1 là, d'essayer de faire du neuf avec du vieux, et surtout avec des vieux briscards qui finalement sont un petit peu en fin de course
Mais ça, c'est depuis toujours. De toute manière, à un moment, tu fais aussi avec ce que tu peux et les moyens que tu as. Et qu'on voit que tout le monde n'est pas armé de la même manière. Hein, quand tu vois que à la vente, et certains clubs sont capables de le faire, et c'est ce qui maintient Monaco depuis très très longtemps, si on fait le calcul des ventes des jeunes joueurs de Monaco, je pense qu'ils sont dans les premières équipes avec Rennes, avec le PSG aussi, qui commence à s'immiscer un petit peu dedans. Il va falloir sortir du joueur, il va falloir vendre du joueur pour avoir beaucoup plus d'ambition et de moyens pour des clubs même qui jouent la Ligue des Champions comme Marseille.
On parle de vieux briscard. Où est-ce que tu vas signer toi, Olivier, à la fin de la saison?
Non, mais il faut savoir aussi, faut savoir bien s'arrêter aussi.
C'est ça.
Il faut savoir s'arrêter. Mais comme je le dis, si tu as toujours cette envie de jouer, après c'est essayer de ne pas se donner des objectifs trop hauts. Ça veut dire que quand tu as été un très grand joueur de Ligue des Champions, on le voit avec par exemple Cristiano Ronaldo, qui reste toujours un très très grand joueur, mais avec toujours des prétentions de top player Ballon d'Or. Cristiano Ronaldo, il ferait le bonheur dans un club comme Marseille. Ça veut dire que, imaginez.
Ah, ça y est, tu vas nous relancer. Non, mais ce que je veux te dire, Ronaldo M.
Non, mais là, c'est vraiment ce que le joueur a comme prétention de lui-même. Fabregas, t'as vu.
Ouais, mais là, tu parles de Cristiano Ronaldo,
quand
même.
Oui, mais Fabregas, il a quand même gagné beaucoup, beaucoup de choses.
Oui, mais ça fait déjà un moment qu'il
est très, très bon club. Aujourd'hui, dans un club qui joue la Ligue des Champions, dans les clubs top qui jouent pour la gagner, il n'y a plus de place. Il y a le niveau actuel des top players, ils sont soit très très jeunes, soit des joueurs expérimentés comme Lewandowski qui arrive encore à se vendre. Et on voit avec l'âge qu'il se vend beaucoup moins cher. Mais un joueur comme Cristiano Ronaldo, peut-être qu'il aurait pu faire briller une équipe et ça aurait donné une très très belle image également. Il aurait joué en Ligue des Champions.
Ouais, effectivement. Allez, la dernière info du jour, Arnaud, dans ce mercato show, c'est chez les filles maintenant.
Oui, comme annoncé par RMC Sport, donc Gérard Prêcheur, et bien le nouveau coach du PSG féminin, le club de la capitale, a officialisé la nomination de l'ancien entraîneur de l'OL ce lundi matin, venant donc confirmer l'information à RMC Sport d'Anthony Reich. L'air Gérard Prêcheur peut officiellement débuter dans la capitale. Le technicien a 62 ans, il s'est engagé jusqu'en juin 2023 avec peut-être une saison supplémentaire en option. Il remplace notamment Didier Olé-Nicole, accusé depuis plusieurs semaine d'agression sexuelle et donc avec qui toute collaboration avec le PSG a été rompue.
Merci beaucoup Arnaud Souk pour ces dernières infos transfert. L'Intégral Sport sur RMC avec Olivier Giraud. On va parler Formule 1 dans quelques instants et puis Philippe Saint-André sera avec nous, le manager du champion de France en titre Montpellier, à un mois de la reprise du top 14. Restez bien avec nous sur RMC.
RMC Intégral Sport.